Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Nous sommes au rendez-vous, bien sûr, de l'actualité et du débat de l'actualité sur votre radio. Monsieur Zedan, bonjour et bienvenue dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes au mercredi 19 juin 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez sans doute que c'est l'heure de l'émission Club de la Presse. Nous démarrons l'émission ainsi. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Koku Vitogbe Tomega assure la mise en onde. Alors de cette émission, bien sûr, Jérôme Dakucha est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou-Bikrom. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous avez aussi ce privilège alors de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi. Vous comprenez sans doute que nous allons parler santé avec Gadiel Tognadi. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
J'espère que tu vas bien.
Ça va bien, remercie le Seigneur, chez vous.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
D'accord.
Voilà, il y a Abbas Issaka aussi qui est là. Abbas, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de la radio Canal.
Sinon c'est toujours commandant.
C'est toujours commandant.
Ça n'a pas changé de grade.
Pas, il faut donner un grade pour que ça évolue.
Ça doit évoluer, c'est très important. Alors, Fabrice Pétiesi, bonjour.
Bonjour à toi, bonjour à tous les confrères ici présents et bonjour aux auditeurs.
Je ne sais pas si c'est commandant ou lieutenant chez toi.
C'est général.
C'est général plutôt.
C'est première classe.
Et c'est le cousin nous, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux lecteurs de Gazelle Info, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Et j'espère que tu as bien entamé la semaine.
Oui, ça va.
Dieu merci. Alors, ce n'est pas anodin quand même quand je salue, j'ai salué, premièrement, Gadiel Tognadi. C'est parce que déjà nous ouvrons cette émission chaque mercredi, déjà avec la page santé. Page santé, vous savez bien le faire, avec votre journal Santé Éducation. Et vous traitez alors des sujets sur la santé. Ce matin, vous nous interpellez alors sur comment manger sain et la qualité surtout alors des nourritures. Vous écrivez à la une alors de votre journal ce matin, Gadiel, contrôler la qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments. C'est bien ça?
Effectivement, le 7 juin dernier, c'était la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. C'était une journée très importante, d'autant plus qu'il est question d'aliments. Et si on est dans la lignée de la bonne compréhension de la santé, ce sont nos aliments qui font notre santé. Et il faut que l'aliment soit un aliment sain, que ce soit un aliment nutritionnel. Et là, on peut d'ores et déjà remercier un certain nombre de partenaires au Togo qui font le travail, notamment VSF, Vétérinaires sans frontières suisses. Avec Wadel qui ont fait une conférence la dernière fois pour encore mieux faire comprendre aux gens l'enjeu de la sécurité sanitaire des aliments. Pascal, c'est un réel problème de santé publique et il faut que dans nos pays des mesures soient prises parce que personne ne nous garantit qu'un aliment que nous allons acheter, que ce soit au supermarché, un aliment que nous allons consommer dans la rue, même au marché traditionnel que nous allons acheter, rien ne nous garantit aujourd'hui que cet aliment il regorge vraiment de nutriments ou bien côté santé il est propre à être consommé. Plusieurs intoxications alimentaires se passent. Vous vous rappelez l'année dernière dans la préfecture d'Ankmeng, dans une école publique, en tout cas primaire publique, plus de 100 enfants ont été intoxiqués à la cantine pour avoir consommé Akpan. Ça a été vraiment un événement qui a secoué le système de santé. Heureusement que ces enfants ont été récupérés. Donc, les cas de d'intoxication alimentaire se produisent beaucoup dans nos communautés. Alors, le côté nutritionnel de l'aliment. Les aliments doivent avoir des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments pour notre santé. Est-ce que les aliments que nous consommons ont tous ces nutriments? C'est ça la question. La plupart des aliments derrière lesquels nous courons aujourd'hui, c'est salé, sucré, gras. C'est ça qui attire le sens de plusieurs personnes et le lit qui constitue le lit des maladies cardiovasculaires. Côté santé, on vient de le dire, est-ce que les aliments que nous consommons sur toute la chaîne de production respectent les normes d'hygiène pour qu'afin le consommateur puisse avoir un aliment à consommer qui va garantir sa santé? Donc le Togo est un cas, on n'a aucune garantie de tous les aliments que nous avons sur le marché, que ce soit dans les supermarchés. Et là, c'est une journée importante. Et cette parution, pour nous, c'est un plaidoyer que nous faisons à l'endroit de l'autorité. Il faut prendre des mesures. Il faut créer des structures pour que l'aliment soit surveillé, soit contrôlé, soit testé pour la santé des populations.
Oui, mais Gazelle, est-ce qu'il n'y a pas des structures? Par exemple, quand on prend l'Esteba, quand on prend l'INH, l'Institut National d'Hygiène, ce sont des structures quand même qui doivent normalement tester la qualité alors de ces aliments que nous consommons, bien sûr.
Oui, vous avez cité ça, ce sont des laboratoires. L'Esteba, c'est universitaire. L'INH, c'est un laboratoire du ministère de la Santé. Donc, je ne sais pas, dans leur agenda, c'est vrai qu'il faut aller vers eux. Si vous êtes un producteur, par exemple, on a fait un projecteur sur le laboratoire microbiologique de l'INH. Si vous êtes un producteur, par exemple, parce qu'on veut mettre sur le marché du jus ou bien du pain, il faut aller vers eux pour un certain nombre de normes.
Mais est-ce que là, ce n'est pas une exigence? Parce que vous parlez entre-temps alors des produits, des supermarchés et tout, ces produits que nous consommons d'habitude et qui deviennent même d'ailleurs des produits de prédilection pour nous. Et finalement, ce sont des gens qui doivent aller, ça doit être une exigence alors pour ces gens-là qui importent même d'ailleurs ces produits d'habitude, d'aller vers ces structures et pour que nous ayons la qualité de ces produits.
Vous pouvez faire un tour sur le marché, vous allez voir des produits, que ce soit des produits locaux ou bien des produits venant de l'étranger, et vous allez voir si ces produits sont testés. Ce n'est pas une exigence parce que voilà, il y a plusieurs produits sur le marché qui ne sont passés par des laboratoires, qui ne respectent aucune norme d'hygiène sanitaire, qui sont sur le marché, qui sont consommés, tout le monde les consomme, mais il n'y a pas une seule attestation qui nous dise que ce produit est fabriqué ou bien voilà, mis sur le marché, toute la chaîne respecte les normes hygiéniques et sanitaires. Donc ça, ce sont des laboratoires qui sont là, il faut aller vers eux. Or aujourd'hui, il faut des services publics qui aillent vers les restaurants, voilà, dans les supermarchés, au marché, même dans les champs, pour faire des prélèvements pour garantir la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons.
Et regardez ce que vous dites. Évoqué est très important, surtout que c'est aussi la responsabilité de l'État d'arriver quand même à garantir la qualité des aliments que les populations consomment.
Absolument, c'est pourquoi nous disons que cette parution pour nous est un plaidoyer, une alerte envers l'autorité. C'est l'autorité qui doit le faire. C'est l'autorité qui garantit la santé des populations d'un pays. Donc, c'est l'autorité que nous visons.
Voilà.
Mais il y a le rôle de la population, parce que quand vous voyez dans nos communautés, nous aussi la population, vraiment des fois on se demande, est-ce que nous sommes conscients de notre santé? Vous voyez là où les gens vont manger, hein? Vous voyez le monsieur, il a tout pour aller, pour manger à la maison, pour faire sa cuisine à la maison, pour aller manger dans un restaurant qui respecte les normes, mais il va aller manger quelque part dans un environnement tout à fait délabré. Nous ne sommes pas conscients des aliments que nous achetons. Nous ne sommes pas exigeants. Le consommateur n'est pas exigeant. Le cas typique, c'est des étalages de vente de viande grillée. À Lomé, s'il y a des coins qui ont fait du buzz, mais quand vous y allez, vous vous demandez, mais pourquoi ça fait du buzz?
Vous voyez de plus en plus les gens, hein.
Voilà. Mais quand vous voyez l'environnement, il n'y a rien d'attrayant. c'est plutôt sale, mais c'est là-bas que tout le monde y va. Hein, tout le monde y va pour faire sa commande.
Là, c'est parce qu'on trouve le goût.
Oui, le goût, mais tout l'environnement compte dans la qualité de l'aliment qu'on va consommer, qu'on achète, qu'on va consommer. C'est absolument important. C'est ce pourquoi nous disons que des gens aujourd'hui, ils sont malades à cause de ce qu'ils consomment.
Regardez, vous vous intéressez toujours aux aliments ou à la qualité des aliments et vous écrivez « Hygiène alimentaire, ces erreurs à éviter en cuisine ». Quelles sont ces erreurs?
Oui, il y a des erreurs que nous commettons aussi à la maison. Ce n'est pas seulement dans les restaurants, dans la rue. À la maison, vous voyez, je prends juste un exemple, titiller un peu les dames qui sortent du bureau, elles rentrent à la maison, elles sautent rapidement dans la cuisine et elles commencent à préparer. Elles n'ont pas plus le temps de peut-être se doucher ou bien de laver les mains. C'est absolument important. Vous avez salué des gens, peut-être que vous êtes allé au bureau, vous êtes sorti, vous avez salué des gens, vous arrivez à la maison et votre premier geste est d'aller préparer à la cuisine. C'est risquant. Si vous avez pris des germes ou bien voilà des pathogènes sur vos mains, vous allez contaminer votre cuisine, votre famille. Donc c'est des petits conseils qui sont donnés dans cet article là pour nous éveiller afin que même à la maison on ne s'intoxique pas parce que voilà on n'a pas respecté les règles d'hygiène.
Alors, vous vous intéressez encore à notre article, toujours dans la question alimentaire. Vous écrivez « Prévenir les intoxications alimentaires dans les écoles ». Vous évoquiez même d'ailleurs le cas de Dapaon l'année dernière tout de suite. Et je pense quand même que c'est un cas aussi très important.
Oui, il y a une enquête qui a été faite et qui sort un résultat qui fait peur. Cette enquête dit que des prélèvements qui ont été faits dans les écoles au Togo démontrent que d'un, les aliments que les enfants consomment dans les cantines nutritionnellement ne sont pas bien et on a trouvé des germes qui ont pour source les eaux rejetées au niveau des industries ou bien les eaux qu'on a prélevées au niveau des carnivaux. Donc vous vous imaginez un peu ce qu'on offre aux enfants dans les écoles. Il y a des gens qui témoignent quand l'année scolaire commence, c'est des maux de ventre par ici, c'est du voilà. Mais pendant les vacances, les enfants sont plus en santé, sont en bonne santé. Mais quand l'école commence, la cantine à l'école constitue un objet de mauvaise santé pour les enfants. Et c'est ça le problème. Heureusement que bon, il y a ce projet de cantine scolaire que l'État a initié où voilà, dans certaines zones, tout est préparé qui respecte l'hygiène. Mais dans la plupart des cantines scolaires chez nous au Togo, en tout cas en Afrique, les aliments qui sont préparés, qui sont servis aux enfants, constituent un lit pour leur mauvaise santé aujourd'hui ou bien demain.
Donc on demande même aux parents d'aller dans ces établissements scolaires et de consommer un peu aussi la nourriture et de voir la qualité même d'ailleurs de cette nourriture que leurs enfants consomment d'habitude. Gazelle, nous allons terminer avec cette citation que vous mettez aujourd'hui, enfin que vous avez mis alors dans votre journal aujourd'hui. C'est la citation dit « L'homme malade devient un fardeau à lui-même et aux autres. Fais tout pour garder ta santé. » C'est de Jean-Louis Moret.
Oui, donc la santé, c'est avant tout, c'est la prévention. Donc, c'est dans la prévention. Évitons l'intoxication alimentaire. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller à ce que nous consommons est traité dans les normes hygiéniques. Et ce que nous consommons regorge des nutriments pour notre santé. C'est absolument important. Sinon, on se bourre juste le ventre et on se met des gènes, des agents pathogènes dans le ventre qui vont nous causer des maladies.
Et qui vont nous causer vraiment des maladies. Il est très important d'être tel que vous l'avez dit, la prévention, c'est très important pour notre propre santé. Merci beaucoup, Gazelles. Merci. Tu as dit d'être passé alors dans cette émission. Santé éducation, c'est dans les kiosques. Et c'est à retrouver à quel prix? Et aussi, si nous voudrons acheter le PDF, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Le journal papier dans les kiosques en pharmacie à 1000 francs. Et puis, sur le journal numérique, c'est sur nos sites internet www.santé-education.tg. C'est à télécharger à 500 francs.
Merci beaucoup, Gadiel Tsonyadi, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission et de parler santé. Nous sommes de retour dans cette émission après avoir parlé santé avec Santé Éducation et Gadiel Tsonyadi. Bien sûr, nous parlons maintenant d'autres sujets de l'actualité. Sylvestre Béni nous a rejoint. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu as bien passé la semaine ou tu as bien démarré la semaine puisque nous sommes en quelque sorte en milieu de semaine.
Oui, ça va.
Dieu merci, c'est l'essentiel. Alors, nous démarrons cette émission avec ce sujet. C'est AfriPress qui nous annonce, qui nous donne cette information, indice sur le développement humain 2023-2024, le Togo premier dans l'espace UMOA. Et voilà, c'est en quelque sorte le rapport sur le développement humain et ce rapport, la cérémonie de lancement, c'était hier bien sûr mardi avec la docteure Sandra Ablamba Johnson qui a fait bien sûr le lancement. Et avec ce rapport, on comprend tout simplement que le Togo, sur ce qui concerne alors un certain nombre de choses, bien sûr des critères bien définis par rapport à ce rapport sur le développement humain, le Togo occupe la première place dans l'espace UMOA. Sylvestre, comment vous avez accueilli peut-être l'information?
Non, comme toujours, le Togo est premier dans tout. Le Togo est premier dans tout. Le Togo est même le premier pays donc, de la sous-région à basculer donc, dans un régime parlementaire. Là aussi, nous sommes premiers. Donc, le Togo est premier formateur mondial, premier dans tout. Mais lorsque vous voyez la réalité, c'est le jour et la nuit. C'est le nœud, quoi, en fait. C'est l'intrigue, c'est le nœud. Bon, c'est ça, quoi. Il y a des critères définis par ces organismes-là qui, une fois que vous les respectez et tout, et bon, voilà, quoi, on vous dit que vous êtes premier. Mais je ne sais pas comment est-ce que... Mais bon, ne soyez pas surpris, quand bon matin, on nous dit que le Togo est le premier pays de la sous-région où le taux de chômage est véritablement, donc... très en bas et tout.
Mais bon, voilà, je suis des critères, bien sûr.
Oui, malheureusement, ce sont quand même des choses que nous, soit peut-être les économistes ou les macroéconomistes peuvent expliquer et tout.
Mais puisque, bon, voilà, quoi. Oui, mais quand vous le dites, est-ce que ça veut dire que peut-être c'est des rapports biaisés?
Non, écoutez, j'ai pas quand même tellement d'éléments pour apprécier cela et dire que ce sont quand même des rapports biaisés, puisque il faut un certain nombre donc, de critères. Une fois que bon, vous les validez et tout, bon, on vous dit que vous êtes premier. C'est là où moi je suis véritablement donc confus parce que bon, on est premier. Lorsqu'on vous dit que nous sommes premiers, cette fois-ci c'est quoi? Un indice de développement humain.
Justement.
Vous voyez quoi? Pour moi ça me dit pas grande chose. Parce qu'on me dit que bon, le Togo est premier, mais bon, je tourne, je circule un peu à Lomé et puis voir quoi. Qu'est-ce que ça apporte donc de plus au panier de la ménagère. C'est ça la question, en fait. Quoi.
D'accord. Alors, Abbas, c'est vrai que l'information qui est donnée, c'est que c'est un rapport qui est réalisé et publié surtout chaque année par le Programme des Nations Unies pour le développement, et le rapport du développement humain présente un état des lieux multisectoriel et met en lumière les défis entravant le développement humain durable. Et il fournit aussi des informations statistiques pour évaluer l'efficacité des politiques publiques, notamment à travers l'indice de développement humain, et classe les pays selon leur niveau de développement. Alors, nous sommes développés dans l'espace en matière alors de développement, nous sommes le premier dans l'espace UMOA. Est-ce que vous êtes surpris?
Non, le Togo depuis quelque temps a triplé aussi des réformes économiques à tous les niveaux. Je pense qu'il y a aussi des réformes sur le plan social. Tout à l'heure, le Gadiel parlait des cantines scolaires où il y a aussi des projets à l'endroit des populations. En fait, ce n'est pas le Togo qui se classe, ce n'est pas le Togo qui a fait le rapport, c'est quelqu'un, une institution, une organisation internationale qui a fait le rapport pour dire que le Togo est premier dans l'espace UMOA et quatrième dans l'espace CDAO. Il est devancé par le Cap Vert, le Ghana, et un autre pays.
Le Nigeria.
Le Nigeria. Donc, voilà, ce n'est pas que le Togo est resté pour faire le classement. Ça dépend des réformes, des efforts que le gouvernement fait en matière de réforme économique. Et ces réformes, tout le monde les a constatées. Lorsque on dit que le Togo est premier dans l'espace Yoma, Yoma compte combien de pays? Il y a 8 pays dans l'espace Yoma. Donc, moi, je ne suis pas surpris pour ce faire parce que même au sein de la sous-région, au sein de Yoma, tout le monde sait que le Togo s'est engagé dans plusieurs réformes au plan économique et surtout des projets sociaux, puisqu'on a dit c'est dans l'humain. L'investissement dans l'humain. Le Togo a beaucoup investi également dans l'humain en favorisant certains projets où il y a même des fonds, les transferts de fonds qui sont faits pour aussi améliorer la situation, la condition de vie des populations les plus vulnérables. Et ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas. Qu'on est surpris que le Togo soit premier dans l'espace, dans la zone Yoma. Moi, je ne suis pas surpris.
D'accord. Fabrice, c'est vrai que quand on voit ces classements par rapport surtout au niveau de vie des populations, les citoyens ont du mal à concevoir quand même ces classements.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec mon ami Sylvestre pour dire que parfois, c'est des données qu'on recherche un peu dans la réalité où on ne se retrouve vraiment pas. Parce que quand on dit premier, tout de suite, ça saute aux yeux que vous êtes meilleur dans un domaine. Bon, effectivement, quand les gens regardent, ils ne se retrouvent pas. Mais comme on le dit, c'est sur la base de certains indicateurs. C'est le PNUD qui a fait le classement. Alors, il faut dire que le Togo est premier dans l'espace Yoma et quatrième dans l'espace CDAO. Mais le Togo n'a pas encore la moyenne. Puisqu'il est à 3 points de la moyenne, il est aujourd'hui à 0,5.
Finalement, on est premier sans avoir la moyenne, c'est ça?
Oui, il est à.
Mais quand vous prenez
les rapports précédents, vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il y a une certaine évolution. Et aujourd'hui, le Togo est à 0,547. Alors que la moyenne, c'est 550. Donc, ça voudrait dire que nous sommes premiers, mais nous n'avons pas encore la moyenne. Mais nous tendons vers la moyenne. Et c'est cette progression-là qui est beaucoup plus saluée parce que le développement humain suppose tout simplement que vous mettez l'être humain au centre de ce que vous êtes en train de faire. Quel est le lien avec qu'est-ce que je mange le matin et est-ce que je me soigne? Bon, là, c'est un peu à ce niveau-là où certains semblent dire que, mais sur quelle base? Et c'est la même chose. Quand mon confrère Sylvestre dit que le Togo est premier partout, non, hein? Moi, très rarement, je vois le Togo premier. La dernière fois, Reporters sans frontières a sorti un rapport. Nous étions qu'elle aime, là.
On était au-delà de 100 quand même.
Et là aussi, vous allez vous rendre compte que des pays comme le Burkina étaient devant nous. Vous voyez un peu, quand vous avez aujourd'hui les informations du Burkina, où on ferme les médias et tout cela, parfois c'est des rapports sur lesquels, quand vous observez un peu la réalité, vous avez du mal un peu à vous retrouver. Mais comme on le dit, c'est des indicateurs, et quand ces indicateurs sont validés, bon, on considère que... Il y a eu des rapports aussi où on avait dit une fois que le Togo est le pays le plus malheureux ou quelque chose comme ça, et les gens se demandaient, mais comment est-ce qu'on peut être même malheureux puisque des pays qui baignent dans la guerre tous les jours? Tout ça, bon, c'est ces spécialistes-là qui savent un peu. Mais c'est un peu cela, c'est cette évolution qui est relevée. Et comme on le dit, ce n'est pas un rapport établi par le Togo, c'est un rapport établi par le PNUD.
D'accord. C'est vrai que si nous sommes premiers sans avoir la moyenne, ça ne devait quand même pas nous réjouir.
C'est bien ça. Et ça a été dit d'ailleurs. Ils reconnaissent que le classement ne veut pas dire que l'essentiel est déjà fait. C'est plutôt un défi pour relever maintenant tout ce qui est dans l'attente, comme les populations le disent. C'est quoi l'impact en fait de ces classements ou de ces différents programmes sur leur vie et le panier de la ménagère? C'est ce à quoi les populations s'attendent le plus. Oui, des programmes ont été annoncés, on les a énumérés, on a énuméré quelques-uns tout à l'heure. School achat, par exemple, les cantines scolaires, les transferts monétaires et tout. Bon, les institutions considèrent que ces programmes sont exécutés dans le pays. Est-ce qu'ils vérifient vraiment l'impact de ces programmes sur les populations à la base? Je crois que c'est là où le travail sérieux devait être fait pour vraiment apprécier l'impact de ces programmes-là et avoir une bonne place dans le classement. Mais j'ai comme impression, je ne maîtrise pas vraiment les critères et comment ça se fait pour aboutir au classement, mais j'ai comme impression qu'on voit juste si les programmes-là sont mis en exécution dans le pays. Une fois que c'est validé, on procède au classement. Mais la vraie interrogation, comme on le dit, comme on le reconnaît, on n'a pas encore totalisé le point qu'il nous faut. Donc, ça veut dire que des défis restent à relever et les problèmes sociaux ont encore la peau dure. On doit vraiment s'y engager pour mériter ces classements-là et épater le monde, en fait.
Sylvestre, au-delà de tout, il y a des défis qui restent à relever, tels que Estelle le dit, parce que aujourd'hui, quand on prend le citoyen lambda, le citoyen devient de plus en plus exigeant sur même son quotidien, sur un certain nombre de choses. Il y a la question de l'emploi, il y a la question même d'ailleurs de l'eau, la question de l'électricité. Il y a un certain nombre de choses quand même, des choses de première nécessité, bien sûr, que le Togolais veut avoir même d'ailleurs se réaliser comme besoin.
Oui, c'est pourquoi donc le résultat donc de ce rapport m'a surpris, parce que lorsque vous voyez donc au niveau de l'emploi, vous savez, il suffit juste de voir un peu au niveau donc des marches de protestation, vous voyez tellement donc de jeunes qui excusez-moi un peu le terme, mais qui peut-être des jeunes désœuvrés, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire et qui, s'ils étaient donc dans un boulot et ils doivent être déjà à 7 heures, tout ça, vous ne les verrez jamais donc aux manifestations. Lorsque vous voyez les cas podiums qui circulent aujourd'hui partout en ville, lorsque vous voyez ces centaines de jeunes qui sont là juste pour aller peut-être vendre un kit et tout ça. Lorsque vous voyez tout ça là, ça doit véritablement donc nous interroger. Hein? Le salaire du Togolais, bon, c'est pas ça. Hein? Donc il y a tellement donc de défis que nous devons relever. Mais là où ça devient encore où on doit encore plus apprécier la chose, c'est que c'est presque les mêmes qui sont là et qui doivent changer les choses. Voyez-vous, c'est pas sur le même système qui est là depuis des années qui doit changer les choses. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ils ne trouvent pas donc la formule appropriée pour changer le Togo. Ils ne trouvent pas la formule appropriée. Nous avons eu tellement donc de projets dans ce pays. Vous avez SCAP, vous avez DRCP 1, DRCP 2, et on a eu tellement donc de projets dans ce pays. Mais ça PUDC, on peut tellement en citer. Mais véritablement après, et le hic, c'est que après on va de projet en projet. Après un projet, on ne fait pas le bilan pour voir l'impact. Qu'est-ce que cela a donné? Non, on passe à autre chose. Il y a quelques années, on nous a tellement donc vanté le PND. Et bon, après, bon, on n'a même pas fait le bilan. On bascule dans les feux de route gouvernementale 2025. Nous sommes presque en 2025. Vous verrez que déjà, à l'orée, donc vers fin novembre 2024, on va encore nous sortir donc quelque chose. Peut-être feuille de route 2030, ou je ne sais pas, ou feuille de route parlementaire.
Mais voyez-vous donc. Oui. Oh, Sylvestre, au-delà de tout, est-ce que ces classements dont nous venons alors de parler n'attestent quand même pas, ces programmes-là ne donnent en quelque sorte pas aussi de bilan pour ce programme?
Le bilan, tout à l'heure, nous tous ici, nous sommes unanimes en disant que oui, nous sommes premiers sans avoir donc de moyenne. Mais sur le terrain, la réalité des choses, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le fruit escompté. Alors, s'il n'y a pas le fruit escompté, ça veut dire qu'il y a tellement de défis. Ça veut dire également que tous ces projets-là, en réalité, la finalité pose problème. Voyez-vous? C'est pourquoi il faut repenser peut-être la politique. Il faut repenser autrement la politique. Oui, Mme Dogbe nous a dit qu'elle va gouverner autrement. Mais bon, elle a fait 4 ans. Bon, elle n'a pas su gouverner autrement. Elle nous avait même promis.
Vous avez l'impression que c'est la même chose?
Oui, c'est presque la même chose, puisqu'elle nous a promis l'autoroute de l'unité. C'est-à-dire qu'on doit faire l'autoroute de l'unité. On a même donné déjà le nom. Hein. Ça,
non,
ça
non, même. C'est presque la même chose.
Mais après, voilà. Donc, il y a tellement donc, de choses que. C'est vrai, on peut se dire. Vous voyez, c'est ce qui peut-être bluffe un peu l'international. Hein.
C'est-à-dire, ils viennent, il y a tellement de projets au Togo. Il y a ci, il y a ça, il y a... Donc, eux, ils peuvent se dire, bon, s'il y a toutes ces choses-là, donc ça veut dire qu'en réalité, ça doit marcher.
Après,
donc, prochainement, il faudrait qu'ils viennent vers nous. C'est-à-dire, nous, le Togolais, là, nous allons nous dire réellement ce que nous souffrons, ce dont nous souffrons. Et donc, quand ils iront donc, dans leur bureau à l'international, ils vont réfléchir avant de nous sortir que nous sommes premiers sans avoir la moyenne.
Alors, Abbas, est-ce que, tel que Sylvestre le propose, est-ce qu'on n'a pas besoin, surtout pour ces critères, hein, ou du moins des indicateurs sur lesquels on arrive à classer les pays, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller vers aussi les populations pour savoir exactement ce qu'elles vivent?
Ouais, est-ce que ceux-là qui font les études, est-ce Exactement. Qu'ils n'ont pas des gens sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des gens sur le terrain et qui font, qui voient aussi l'évolution de leur projet? S'ils n'ont pas des gens et qui restent dans leur bureau pour faire, si c'est ça, on ne doit pas se satisfaire de notre classement là.
Ouais.
Parce que s'il y a des gens sur le terrain et qui voient l'évolution, leurs projets sont là, parce que c'est eux les partenaires là qui financent
les études.
Les études.
Et même les projets.
C'est leurs projets, c'est eux-mêmes qui financent les projets. Parce que le gouvernement fait des projets, des projections et envoie des projets pour financement. Même les choses de school assure dont on parle, c'est que c'est eux qui financent ça, qui aident le gouvernement à faire à réaliser ce projet. Il y a le programme alimentaire mondial, tout ça là. Le PNUD même fait ces projets. Mais s'ils ne sont pas sur le terrain pour évaluer, est-ce que réellement ces projets-là sont exécutés en faveur des populations vulnérables dont on est en train de faire là? Ils peuvent aller, comme Sylvestre le dit, c'est qu'ils n'ont qu'à aller directement demander aux populations la cible pour voir est-ce que le projet que nous vous envoyons vous sert à exécuter. Parce qu'on a même l'exemple ici, lorsque on envoie des programmes à des gens sur le projet, ça s'est posé lors des forats que le chef de l'État a organisé sur tout l'état du territoire pour les paysans. Il y a des projets qui n'ont pas été exécutés et les paysans, les agriculteurs ont été obligés de dire que on a tel projet, mais on n'a jamais vu ça. Donc, s'il faut rester quelque part et dire qu'il y a un projet à exécuter, et alors que c'est sur papier que ça a été fait, on ne peut pas l'admettre. On ne peut pas aussi être ça, parce qu'il y a des défis à relever. Lorsqu'on a eu un chronogramme pour le gouvernement, c'est une feuille de route gouvernementale de 2020-2025, est-ce que tous les projets qui sont dedans ont été réalisés? Bientôt, nous allons en 2025. Donc, si ce n'est pas fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour satisfaire les besoins de la population. Lors des campagnes, on a dit qu'on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Mais lorsque les populations ne ressentent même pas la réalité sur le terrain, et on vient dire que nous sommes premiers en classement, c'est ça qui n'est pas chose. Parce que c'est tout comme le truc des affaires, comme MCC, le climat des affaires, on fait. Il y a des notations qu'on donne. Et au fur et à mesure.
C'est sur des indicateurs.
Sur les indicateurs. Ici aussi, c'est les indices de développement. Donc, c'est quand on vous donne une note, on vous demande de faire mieux. Parce que j'ai suivi dans l'intervention de Mme Sandra, la ministre secrétaire, elle a dit que ce classement doit nous inciter encore à faire beaucoup plus que ce qu'on nous a dit. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas satisfaits de ce classement puisque l'indice n'a pas été atteint. On n'a pas atteint les.
50, 0,50.
Il nous reste beaucoup de points. Donc il faut continuer à améliorer.
En fait, il faut dire juste un élément à ce que Abbas vient de dire. C'est-à-dire que eux aussi, ils cocottent les projets, ils mijotent les projets, ils nous envoient en Afrique. Mais aussi, ils font venir un expatrié. C'est-à-dire quelqu'un d'eux encore pour venir donc gérer le projet. Voilà. Généralement, il y a également ces gens de fait. C'est-à-dire qu'ils financent le projet et tout ça. Mais au lieu donc de laisser la main aux locaux, de travailler sur le projet, on fait venir donc un expatrié.
Et qui est payé très cher.
Et qui est payé très cher encore sur le projet.
Sur le projet.
Vous voyez, donc tous ces éléments-là, donc lui doit sortir un bon rapport pour que lui aussi soit grassement payé.
Ouais. Donc c'est ainsi que nous ne donnons pas la main gauche, mais nous ne reprenons pas la main droite. Alors,
je crois que dans ce rapport, ce qu'il faut beaucoup plus noter, c'est l'évolution. Quand on dit que le Togo n'a pas la moyenne, en fait, il y a un seuil. Il faut atteindre ce seuil pour être classé dans la catégorie de l'indice humain moyen. Et quand vous prenez le Togo depuis 2014, on était à 0,484. Et donc, en 2018, il y a eu un autre rapport. En 2022, il y en a eu. Et aujourd'hui, celui de 2023, 2024 nous amène à 0, à 3 points de 0,550. Alors c'est pour cela qu'on dit qu'il y a quand même une évolution vers l'indice de développement moyen. Maintenant, il ne reste pas, c'est, comme on le dit, il faut préciser que ce n'est pas le Togo qui a fait ce rapport, c'est le PNUD. Et c'est pas des gens aussi qui restent dans leur bureau et sortent les chiffres comme cela, hein. Je vais vous donner un exemple. L'an dernier, ou je sais pas, il y a 2 ans ou 1 an, le dernier recensement. Mais des gens qu'on a envoyés sur le terrain avec des tablettes, ils ont posé beaucoup de questions. Ils ont beaucoup, quand on dit qu'on ne va pas vers la population, ils ont posé beaucoup de questions aux populations. Et ces données-là, c'est pas des données, c'est pas, on ne pose pas des questions comme cela pour les poser. Et vous avez vu, et que le, au niveau de l'INSED, la façon dont ce recensement a été conduit, le dispositif a été mis sur place de telle sorte que les enquêteurs qui vont sur le terrain, quand c'est la pagaille, tu fais, ils ont les éléments, c'est-à-dire, c'est des tablettes qui sont connectées de telle sorte que si tu ne travailles pas, tu restes sous un arbre et après tu fabriques les chiffres, ils ont la possibilité de le vérifier. Et là, alors, donc, c'est un travail. Et il y a aussi ce qu'on appelle les agences de notation qui sont là, qui des études et qui sortent de ces statistiques là. Donc c'est pas le Togo qui envoie forcément les chiffres, il y a des gens qui nous suivent. C'est comme quand vous prenez les questions de droits de l'homme, quand ils viennent, c'est pas seulement au gouvernement ils s'adressent aux ONG, aux associations de défense des droits de l'homme, et eux-mêmes ils ont leur propre enquête, ils ont même des représentations ici. Si vous allez aujourd'hui à l'Union Européenne, ils vont vous sortir des informations sur le Togo que vous-même, Togolais, vous ne savez pas. Donc, ce n'est pas... Bon, si c'est le premier rang dans l'UEMOA qui donne l'impression comme si on a... Bon, prenons le quatrième rang dans la CEDEAO.
C'est vrai qu'il y a déjà, nous parlions alors de Global Peace Index, qui 2024 aussi, qui donnait le pays, qui classait le pays 20e pays en paix sur le plan africain. Et aujourd'hui, avec même d'ailleurs ce classement sur le rapport du développement humain, finalement, on dirait quand même que tout baigne quand même.
La question de paix, même, c'est seulement un débat. La notion de paix reste un débat. Mais si je reviens un peu sur la question de classement par rapport à l'indice humain et tout ça, je crois que ce qui peut nous aider à mieux apprécier ces classements-là, si j'ai bonne mémoire, Mme Dogbé avait promis de baser sa gouvernance sur les résultats. Elle avait promis chaque équipe gouvernementale ou chaque département devait rendre compte voilà, selon une périodicité bien donnée. Je crois au début, ça a été fait et juste après, la première année, on n'en a plus jamais entendu parler. Je crois que ces questions aussi devaient nous aider en fait à mieux apprécier si on a déjà un résultat en interne sur les différents programmes qui sont élaborés ou gérés par les différents ministères. Si on a un résultat communiqué au niveau des populations, on peut mieux apprécier en attendant que les organismes internationaux ou les organisations étrangères ne viennent nous donner encore un peu plus d'éléments sur tout ce qui est fait en interne. Bon, je crois que c'est des éléments. Ça a été bien dit, bien élaboré, bien annoncé, mais le suivi n'a pas été fait, ce qui rend un peu compliqué l'appréciation aujourd'hui de tout ce qui a comme impact. Et pour ces différents programmes, il n'y a pas eu de bilan comme ça qui est présenté également au niveau des populations. Quel bilan en tire pour les différents programmes qui ont été faits? Rares sont les bilans qui ont été annoncés. Du coup, ça nous permettra de bien apprécier ce qui vient de l'étranger également par rapport à ce qui se passe en interne. Maintenant, sur la question de paix, oui, la paix, c'est l'absence de guerre. Le Togo n'a jamais été en guerre, donc on peut comprendre que nous sommes en paix. Mais non, pour les aspects ou les questions sociales là qui vont venir se gargariser là-dessus, il faut que toutes les populations soient à l'aise, même si je reconnais que tout le monde ne peut pas l'être, mais il faut que le minimum soit fait comme ça. Ça sera un élément quand la paix entre en mariage ou en concordance avec les indices de bonheur et puis les indices de richesse. Je crois que tout le monde sera à l'aise et les gouvernants également le sont et tout le monde se porte bien.
Oui, mais Sylvestre, la paix n'est pas seulement que l'absence alors de guerre. Justement. Parce que la paix peut être menacée quand même par la faim et aussi alors d'autres faits sociaux.
Bon ami, celui qui a faim n'est pas en paix. Oui, celui qui a faim n'est pas en paix. Donc la paix n'est pas que l'absence de guerre. Mais puisque s'il y a tellement donc, de frustration dans un pays, c'est également un mauvais signe, parce que ça peut partir en cacahuète un beau matin, voyez-vous. Donc, c'est vrai que, bon, le Togo, oui, nous sommes en paix, quoi, P-A-I-X, hein. Nous sommes en paix, mais bon, au nord du pays, hein, ce n'est pas peut-être la même conception des choses. Alors, mais je peux dire que oui, mais à l'intérieur... après bah quoi si autre là bon
avec la situation
sécuritaire dans le nord du pays. Et puis bon, résumé sur le volet social, oui, tel que je le dis, celui qui a faim n'est pas en paix, et les Togolais chaque jour expriment donc leur ras-le-bol, hein. Je disais en début de semaine sur une chaîne radio, et c'est un constat que je fais, vous verrez que au niveau des émissions interactives aujourd'hui, lorsque ça touche un peu le social, écoutez la réaction des auditeurs et auditrices. Et vous verrez qu'en réalité, c'est un mauvais signe. Les gens en ont ras-le-bol. Hein? Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Juste pour le quotidien. Aujourd'hui, manger une fois par jour devient un luxe. Hein? Presque un luxe au Togo. Voyez-vous? Donc, lorsque vous mettez tous ces éléments-là réunis, oui, c'est un bon nous dit. Que oui, nous sommes en paix. Et puis, lorsque on proclame ou on décrète aussi la paix, c'est également, ce n'est pas aussi une très bonne chose, parce que bon, et à chaque fois vous verrez que le gouvernement dit non, il faut œuvrer dans la paix, il faut faire la paix, il faut. Lorsqu'on demande également, il faut faire la paix, il faut œuvrer pour la paix, il faut en réalité savoir que nous ne sommes pas en paix. Parce que quand on demande plus de paix, ça veut dire qu'on sait intérieurement qu'on est menacé. Voyez-vous? Donc, il faudrait qu'on puisse.
Menacé par quoi?
Non, on est menacé par le social, hein, on est menacé par le quotidien des Togolais, on est menacé par les frustrations en ce qui concerne donc la liberté d'expression ou autre, on est menacé par les restrictions donc des libertés, des droits fondamentaux, on est menacé par tellement donc de choses. Voyez-vous, peut-être que les Togolais vont appeler tout à l'heure, vous écouterez ce qu'ils vont dire.
D'accord.
Voyez-vous, donc il faudrait qu'on puisse véritablement donc penser mieux le Togo, quoi.
Mais Abbas, et pour mesurer aussi la portée, l'importance de la paix, il est très important quand même de vivre peut-être dans un pays de guerre.
Lorsqu'on dit que quand on n'est pas en guerre, on n'est pas en paix, ça je dis que non. Parce que il faut vivre ce qui se passe. Même, je donne l'exemple du Burkina ici. Ce qui se passe où les gens meurent à tout bout de champ parce que les terroristes menacent là. L'extrême nord du pays, du Togo ici, où les gens, on les tue. Ils sont pas, on décrète même des mesures d'urgence sanitaire, d'urgence sécuritaire pour dire qu'il faudrait que tout ça se calme là-bas. Et lorsqu'il y a même des idées à faire, lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas sortir. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas venir ici à la radio en train de parler. Si le pays est menacé de guerre, est-ce qu'on peut sortir faire nos activités? Est-ce qu'on peut sortir faire le commerce? Les mamans marchandes là, qui vont à Sigamé, est-ce qu'ils peuvent aller rester à Sigamé? Bien sûr que les Togolais disent qu'ils ont fait. Mais ils ont fait, ce n'est pas ça qui va menacer quelqu'un de paix. Mais il faut mener les activités pour pouvoir assouvir à ses besoins. Et s'il n'y a pas la paix, l'on ne peut pas rester dans la rue pour vendre. Ceux-là qui s'installent tout le long des rues, ceux-là qui vont au marché pour vendre, nous-mêmes qui menons nos activités, les activités économiques, les activités administratives au niveau des bureaux, au niveau des services publics. Est-ce que s'il n'y a pas, quelqu'un peut se déplacer pour aller là-bas? Il faut voir. Lorsqu'il y avait des événements, les grèves et des marches violentes, les gens avaient peur même de sortir pour payer. Quand vous entendez les Ivoiriens chanter par rapport à cette paix, mais sans la paix, même que vous ne pouvez même pas sortir pour acheter une cigarette, un bâton de cigare. Donc c'est ça, on parle de paix.
La cigarette, c'est un luxe.
Ils ont chanté ça. Donc il faut dire que c'est pas le problème. On a fait, mais il faut que cette paix-là soit là pour qu'on puisse travailler et pouvoir manger aussi à notre faim. Parce qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un que vienne me donner à manger. Il faut se battre pour que tu trouves à manger.
Hein? D'accord. Ça. D'accord. Fabrice, la paix n'est pas forcément synonyme de calme. Hein?
Oui, bon, c'est vrai que bon, c'est des concepts un peu philosophiques. Hein. On va épiloguer là-dessus. On aura du mal à enfermer la définition de la paix, la liberté et le bonheur dans une définition toute faite. C'est difficile. Mais à un moment donné, mais il y a certains éléments fondamentaux qui permettent de définir ces éléments-là. Quand vous prenez les Nations Unies, ils ont une définition claire de la paix qui suppose la mise à l'abri de la guerre. Et c'est pour cela, très souvent, ils rapprochent la paix et la sécurité. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la paix sociale. Et généralement, quand on a faim, ça peut être un élément qui peut pousser peut-être un individu à créer une situation
d'instabilité.
Parce que à supposer, je ne dis pas que les braqueurs forcément c'est parce qu'ils ont faim, hein, parce qu'il y en a, c'est pas forcément la faim, c'est pas aussi une manière de dire que ceux qui braquent c'est toujours ceux qui ont faim. Et bon, c'est pour cela que je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais lorsque, enfin, dans un pays par exemple, les richesses ne sont pas bien partagées entre les citoyens, il peut y avoir des conflits et ça peut remettre en cause cette paix-là et autres. Mais effectivement, il faut vivre. C'est-à-dire, quand on évalue la paix d'un pays à un autre, vous allez vous rendre compte que dans certains pays, effectivement, quand on parle de la paix, sa réaction n'est pas la même que quelqu'un venant d'un autre pays où peut-être il n'a jamais vécu la guerre. Vous voyez la question des réfugiés, les déplacements des populations et tout cela et autres. Mais ce qui est sûr, il faut créer des conditions de paix. Parce qu'aujourd'hui, quand on explique un peu la situation dans le nord du Togo, au Burkina, au Mali, avec les questions liées au terrorisme, quelque part, on n'occulte pas la pauvreté. Madame la Premier ministre, le Premier ministre l'a dit, l'une des raisons, c'est forcément la pauvreté. Parce que tous ces jeunes qu'on enrôle, parfois, les gens y vont sur la base du fait qu'il y a un appât de l'argent. C'est là où je suis d'accord avec le chef de l'État qui dit qu'il y a des jeunes qui ne réfléchissent pas assez, qui mordent facilement à cet appât-là. Ça, il faut le reconnaître. C'est pour cela que je prends soin de dire qu'il y a des gens qui ont faim, mais qui estiment que quand on a faim, c'est pas tout, on mange. Mm. C'est pas parce que j'ai faim que je dois prendre une arme pour aller braquer, tuer et autres. Il y en a qui ont faim, qui trouvent d'autres solutions, mais il y en a qui peuvent avoir faim, mais qui choisissent également la violence pour régler leurs problèmes de faim.
Et nous allons nous intéresser à la question politique, hein. Nous allons quitter ces questions lors de classement et parler politique. Parlons politique, c'est vrai, nous savons que déjà le vendredi dernier, c'était le 14, il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui a été mis en place. Et désormais, nous savons que c'est Sévon Kodjo Adédié qui est le président de l'Assemblée nationale et qui remplace même d'ailleurs Madame Yawa Chantal Tegan. Et finalement, quand on prend même d'ailleurs le sujet Sivesque, on dirait tout simplement qu'avec ce bureau de l'Assemblée nationale, pas à pas, la 5e République est en train de prendre corps.
Oui, mais si vous le permettez, donc bien avant d'aborder cette question, je reviens juste sur le sujet que nous venons donc de sur le précédent sujet. Vous savez, le chef de l'État dans son discours de je crois de 2012, que tout le monde cite, il dit que lorsqu'un petit nombre accapare les richesses nationales, cela crée un déséquilibre profond qui menace la paix et le progrès. Je crois que lorsque vous voyez, vous analysez donc les termes donc de ce discours-là, donc ça rejoint un peu ce que nous dit lorsque celui qui a faim. Je crois que lui, il est dangereux. Alors, pour revenir donc à la 5e République, oui, la 5e République est en marche, hein, avec l'ancien ministre, hein, ministre d'État, Sévon Tepe Kodjo Adeje, qui est aujourd'hui donc le président de l'Assemblée nationale, et donc avec disons le groupe parlementaire uni à tout prix, hein, et lorsqu'on est uni, on gagne, et lorsqu'on gagne, on gouverne, et quand on gouverne, on prend tout. Donc ils ont pris donc les 13 postes.
Ça, c'est votre part.
Non, je dis ça. C'est toi qui dis ça.
Est-ce qu'on prend tout aussi, se trouve dans la... dans le slogan.
La preuve, ils ont tout pris, non? Il y a 13 postes.
Et mais ils n'ont pas dit ça, c'est toi qui le complète.
Il y a 13 postes donc, au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Ils ont tout pris.
Mais on s'arrête
donc, sur le gouvernement. Donc, on prend tout.
On s'arrête sur le gouvernement.
Donc, voilà un peu la situation. Donc, unir à... Et donc, le bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, bon, c'est vrai, ils ont gagné. Hein. On ne peut pas quand même leur reprocher cela. Mais l'idéal serait donc de coopter un ou deux membres donc des trois sièges rescapés de l'opposition. Hein, de coopter au moins un ou deux membres dans le bureau. Ben voilà, ils ont décidé donc de tout prendre et puis ils ont tout pris puisque c'est eux qui gouvernent. Et donc maintenant on verra au niveau des commissions s'ils vont un peu laisser quelque chose pour les trois, hein, les trois mousquetaires qui sont restés donc au niveau donc de l'Assemblée nationale. Bon voilà quoi. Bon là on attend selon donc nos informations. Et puis lorsque vous voyez le ministre de l'administration territoriale, vous le verrez, il a déjà fait une tournée.
Tout à fait.
Ça veut dire que très très bientôt on aura aussi les élections sénatoriales. On aura donc les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc bon, on aura très bientôt le président de la République et puis le PCM, le président du Conseil des ministres. Voilà quoi, là c'est qui ont repliqué la manche.
D'accord. Et Abbas, l'expression démocratique ne voudra quand même pas que, tel que Sylvestre l'a dit tout de suite, qu'au moins quelqu'un de l'opposition soit dans le bureau de l'Assemblée nationale.
C'est pas l'expression démocratique, c'est la loi qui le détermine. Il y a le règlement intérieur aussi de l'Assemblée nationale qui détermine. En fait, selon les dispositions du règlement intérieur, c'est que lorsque la présidente revient à un parti politique majoritaire, la vice-présidence aussi est donnée au parti de l'opposition, ainsi de suite. C'est pour cela que l'année dernière, il y a eu le président Madame Chega et puis vice-présidence était revenu.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé dans le nouveau règlement intérieur?
Il y a quelque chose qui a changé dans le nouveau règlement, mais seulement il y a la Cour constitutionnelle qui a donné son avis également pour qu'on revoie légèrement cet article ou bien ce règlement intérieur. Donc on attend de voir ce qui va se passer, parce que quand ça se passe ainsi, c'est que lorsque le président est là, jusqu'au questeur, c'est que ça a été. Seulement on ne sait pas si cette fois-ci l'opposition qui est au Parlement.
Mais est-ce que c'est au niveau des commissions ou du bureau? Sinon, je n'ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas un test qui est fait obligation.
C'est au niveau de la CENI que les tests préconisaient ça. Mais au niveau de l'Assemblée, moi non plus.
Sinon, je n'ai pas
la demandé la mouture, je ne l'ai pas obtenue.
Personnellement aussi, je ne peux pas.
Mais j'ai jamais vu un opposant dans le bureau. Enfin, cette dernière législature.
Sincèrement, le test, le règlement intérieur, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vraiment.
De l'Assemblée nationale.
Oui, il y avait le. Qui est décidé là.
Il y a aussi un autre qui est décidé.
Oui, mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une loi qui l'a autorisé? Est-ce que
c'est le règlement intérieur qui peut trancher? On ne l'a pas encore.
Le règlement même n'est pas encore fini.
Oui, la Cour constitutionnelle a encore des amendements à faire là-dessus.
Oui, mais moi je parle plutôt alors d'expression démocratique, juste par rapport même d'ailleurs à ces
expressions de toute tradition
démocratique.
Je crois que si tu mets en avant l'expression démocratique, je crois que c'est la démocratie qui a marché, mais c'est la majorité. C'est-à-dire que moi j'ai compris que les trois qui sont au Parlement, puis ce...
Bon, il voulait dire la tradition
démocratique.
Tradition.
À l'extérieur, comment ça se verra? C'est aussi
oui,
ça.
Oui, en fait, c'est pour cela, sous réserve de voir qu'est-ce que les dispositions du règlement intérieur disent exactement, on nous a dit tout simplement qu'il y a élection du bureau de l'Assemblée nationale. Alors que dans cette Assemblée nationale, il y a un parti qui est majoritaire... je ne sais même pas s'il faut dire majoritaire ou qui est pratiquement
hyper majoritaire.
Alors, à ce niveau, la liste des candidats, il y a eu à aucun poste, il y a eu une double. Enfin, il n'y a pas eu de candidats à part les candidats du Parti Unir. Alors, peut-être que les trois qui sont là ont compris que même s'ils sont candidats, ils n'auront rien, puisque la majorité, c'est les autres. Maintenant, pour qu'ils soient dans le bureau, peut-être ça doit relever d'une négociation, à mon avis.
Une tradition démocratique.
Oui, une tradition pour dire, bon, peut-être on va pas tout prendre, on va mélanger un peu et autres. Mais moi, je me dis que moi, je, pour moi, c'est ça ne change rien à l'évolution du pays. C'est-à-dire, moi, je suis dans une logique, si vous gagnez, gouvernez. Et le jour où, à l'heure du bilan, vous rendez compte également. Parce que effectivement, à plusieurs reprises, notre pays a connu ces histoires de gouvernement d'union ou d'ouverture, de large ouverture. Mais quand on met des individus en main, bon, ils font ce qu'ils peuvent. C'est peut-être que politiquement, ça peut décrisper la situation. Mais je crois que cette assemblée, le bureau qui a été mis sur pied, quand vous le regardez, unir a pratiquement organisé tout pour avoir une liste où ils sont là du début jusqu'à la fin. Maintenant, pour le président de l'Assemblée nationale, et c'est vrai que il était un membre du gouvernement. Maintenant, il revient à l'Assemblée nationale, il prend le perchoir. C'est un président de l'Assemblée nationale qui est très connu du milieu de la presse. Je ne vais pas loin. Et donc, j'espère tout simplement que les choses vont bien se passer. Mais ça c'est les faits. Maintenant, mon commentaire. Quand vous regardez un peu le cheminement de l'actuel président de l'Assemblée nationale, pour ceux qui croient au destin, on a l'impression que
c'est un dieu donné.
C'est une question de destin. Parce que vous savez que même au sein du pouvoir, que c'est pas propre au Togo, hein, dans un même parti politique, il y a des courants et des clans qui s'affrontent.
Tout à fait.
Et quand vous voyez un peu tout ce bruit qu'il y a eu autour du personnage, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec ces histoires d'argent perdu, on a l'impression qu'il y avait quand même quelque chose pour un peu... En fait, c'est comme si certains ont vu la chose venir. Et il y avait des velléités pour, bloquer plus ou moins l'ascension de l'homme. Parce qu'effectivement, quand vous êtes un homme politique, et avec toutes ces informations qui ont été publiées et qui vous amènent à mettre des journalistes en prison, tous ces bruits-là, vos détracteurs peuvent penser que politiquement, vous êtes fini. Mais, contre toute attente,
il a été promu.
Adeyé est allé jusqu'au bout et il a pris le perchoir. Et donc, quelque part, je me dis que c'est le destin de l'homme. Tout ce qui a été fait, peut-être pour freiner un peu cette lancée-là, ça n'a pas eu d'impact. Il a continué sa carrière politique comme si de rien n'était.
D'accord. Essaye.
Oui.
par rapport même d'ailleurs à cette élection alors de Monsieur Adeyé à la tête alors de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pensez?
Oh, je ne pense rien. Il est élu député et ses pairs l'ont porté au perchoir, donc. Comme on l'a dit, c'est en quelque sorte son destin. Il n'était même pas au pays. Il est en Turquie pour.
C'était au Rwanda, à
Kigali. Il était à Kigali pour une mission avant qu'il ne soit porté à la tête de l'Assemblée nationale. Parlant des candidatures et tout, on a remarqué quand même qu'il n'y a pas eu deux candidats à un seul poste. Il n'y a que des candidatures uniques à chaque poste, ce qui a fait que, parlant des membres de l'opposition, ils n'ont d'abord pas candidaté. Donc, il n'y avait pas de logique pour qu'ils se retrouvent dans le bureau n'ayant pas candidaté. Et comme on l'a dit, on n'a pas encore le règlement intérieur de l'Assemblée pour vraiment apprécier, en fait, tous ces aspects-là pour voir comment est-ce que les choses se sont passées. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est ce qu'on a décrit sur ce plateau, des candidatures uniques. Et c'est Apevon qui était... Pardon. C'est bon, peut-être le lapsus n'est pas anodin,
Il y a un fait également qui a marqué la séance la fois passée, le vendredi dernier bien sûr, c'est que déjà quand le doyen d'âge alors devait laisser même d'ailleurs quitter le perchoir, c'est vrai que il avait voulu même d'ailleurs donner quelques conseils pour surtout le jeu des démocratique alors au Togo. Il a dit le pays nous appartient tous. Il est très important quand même que nous travaillions ensemble alors pour construire ce pays et tout. Et à un moment donné, il semble même d'ailleurs que ses propos n'étaient pas au goût alors des députés unis. Et ils sont, il y a beaucoup de gens quand même qui ont commencé par bouder. Ils ont quitté même la salle. Et c'est aussi je ne sais pas si vous avez appris aussi cela.
Oui, oui. Je crois que le problème que nous avons au Togo, surtout au niveau donc de la représentation nationale, c'est que nos députés sont plus des députés du parti que des élus de la nation. C'est pourquoi on n'a jamais vu un député du parti uni et un autre donc de l'opposition réfléchir en sens une proposition de loi et soumettre. C'est-à-dire que on vient à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'ils ont été élus par un parti politique, mais une fois à l'Assemblée nationale, vous êtes devenu donc un élu de la nation, un député de la nation. Mais les gens sont souvent trop accrochés à leur parti politique. Ce que disait donc le doyen d'âge, le professeur Aimé Goguet, c'était juste inviter donc ses collègues députés, ses concitoyens, à ce qu'on puisse et briser l'intérêt national. Et je ne vois pas en quoi certains puissent être aussi agités et sortis de la salle. Voyez-vous, bon, un sage qui vous dit, non, maintenant, mes amis, travaillons à ce que le pays puisse aller de l'avant et priorisons l'intérêt national et tout ça. En quoi est-ce que cela peut irriter quelqu'un à sortir de la salle s'il n'est pas un agité? Voyez-vous, donc il y a ces gens. Donc je demande donc à nos députés de laisser un peu leur coloration politique une fois donc à l'Assemblée nationale et de penser Togo.
D'accord.
Voilà. Oui, mais oui, sur cet aspect, moi je suis pas d'accord. On a vu les précédentes législatures quand l'ANC était à l'Assemblée nationale. Il y a des moments où quand Abbas Bonfo prenait la parole sur certains sujets, il sortait.
Pour moi, là, il est élu. Là, président.
Oui, pour moi, c'est une attitude parlementaire. Vous pouvez soit vous ne votez pas, vous pouvez également boycotter les travaux et sortir et tout cela.
Mais ça se voit.
Donc, pour une fois, un opposant d'une manière provisoire a pris le perchoir et quelques-uns sont sortis et il est frustré.
D'accord. Alors, mais je pense que nos auditeurs
c'est pas pour voter, c'est juste voilà, des conseils.
Oui, mais il faut qu'on mette quand même le Togo devant.
Le Togo devant.
C'est l'intérêt national.
Un doyen vous conseille, toi tu sors de la salle.
Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent alors à rentrer en ligne, à intervenir alors dans ce débat. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs, nous revenons juste après. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez quand même que nous ouvrons maintenant à vous et vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Je vais bien.
Allez-y.
Oui. Merci pour les informations données sur la santé. Le lavage des mains important, c'est bien. En ce qui concerne le classement, ça dépend de là où l'on se trouve dans la société. Soit dans la majorité qui tire le diable par la queue, soit dans la minorité qui s'accapare des biens de la République. On voit le verre à moitié plein et à moitié vide. Au lieu de faire ce classement, il faut plutôt élaborer des stratégies gagnantes pour la jeunesse, la formation, le transfert de technologies, la diminution des aliments de base, l'organisation et la proclamation d'un concours national. Et pour finir, sur le plan politique, c'est le statu quo, c'est-à-dire déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est le statu quo qui continue. Merci Canal FM.
Merci beaucoup à vous, Nestor, depuis Agouéport, votre intervention, 22-21-33-114. Allô, bonjour. 22-21-33-114, 91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, participer au débat de ce mercredi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
Voilà, allez-y.
Oui, je salue Daniel pour ce que nous mangeons.
D'accord.
J'aimerais qu'il m'aide à savoir si, bon, généralement dans la boutique togolaise, quand nous constatons que les tracteurs sont remplacés par les herbicides, quelles seront les conséquences dans ce cas? Parce que déjà les conséquences tombent sur les vers et les bactéries, et puis on n'a pas un bon rendement. Maintenant, côté santé, quelles seraient les conséquences?
Le souci, c'est que Daniel...
La santé, on sait. La dernière fois, il y avait un accident, un moteur a ramassé un fou. On l'a ramassé, il mettait dans l'ambulance. Une dame disait que bon, on l'a aussi bébé, nous, il faut la vendre. Il dit non, il y a mieux. Elle a ri, elle dit que tu comptes encore ce que le Togo fait. Donc, la population togolaise sait que tout ça là, c'est du bluff, c'est du fake news. Hein, vous voyez, au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas, ils aiment le chiffre 13 là. Hein. Il paraît que les membres du bureau, c'est 13.
Tout à fait.
Avec 13 janvier 2013. Bon, avec le 66 là, 666, bon, on va chercher voir ce que ça donne avec leur chiffre là. Merci.
Merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention. Allô, Madame Issi, bonjour.
Il y a beaucoup de qu'on ne va pas travailler pour notre bien-être et pour le pays. Les gens ont cumulé, tout le monde a cumulé les postes. Voilà. Je dis bonjour à vous tous.
Bonjour.
Nyamavo, Ali, Didier, tout le reste. Et puis voilà. Vous avez parlé, moi j'ai entendu de loin, hein, vous avez parlé d'un prix là. Vous avez reçu encore un prix, le Togo a reçu un premier prix.
Oui, c'est hein, un classement. C'est ça, non? Oui, classement sur le rapport du développement humain.
Classement tout ça là. Pourquoi?
Le Togo a
arrêté ça. Ça nous perd le temps. Il faut arrêter. Moi je serai les jeunes dirigeants qui sont arrivés en 2005 là. Je ferai autrement. Je vais couper le pont avec les habitudes de la maison. Ils ont promis les réformes démocratiques en 2008. Je ferai tout ça là, je serai parti depuis le pays développé, je reviens s'il faut. Après, je ferai pas pire, quoi. Ils n'ont qu'à arrêter tous ces trucs-là, des prix. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin d'alterner pour évoluer, pour avancer. Et que tout le monde travaille dans le pays est bloqué. Une minorité, c'est pas bon, c'est pas normal. L'histoire s'écrit en noir. Merci.
Merci beaucoup, madame Messi, pour votre intervention. 22 21 314. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22 21 314 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
S'il vous plaît, diminuez un tout petit peu le volume de votre pouce à côté de vous.
C'est bon?
Oui, c'est bon. Votre nom, c'est?
Aliou de Adido Gomé.
Aliou, depuis Adido Gomé.
Oui.
Allez-y.
Bon, je ne comprends pas quelque chose que je voudrais demander.
Allez-y.
Il y a certains qui trouvent maintenant que c'est la sécurité quand on tire, ça peut dire la paix. Et ça, quand on ne tire pas, c'est ça qui veut dire là. Quand quelqu'un amène son parent à l'hôpital, et qu'on dit qu'il n'y a pas l'hôpital, et il n'y a pas de scanner pour faire que la personne meurt. Quelqu'un à la maison, il cherche à manger, il ne trouve pas à manger, et qu'on va dire qu'on va dire que c'est un pays de paix, je vous en prie. Donc, les journalistes qui sont chez vous, je ne sais pas si c'est. On les fait un salaire et qu'ils viennent, ils disent n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux, là.
Allez où? Allez où? Et chacun a sa manière de voir et aussi l'actualité, d'analyser l'actualité. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Il est très important, quand même, de parler avec courtoisie, hein. Allô? Allô? Allô, bonjour? Il n'est pas avec nous, Michel, nous prenons un autre auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui,
c'est Armand.
Armand.
Oui.
Allez-y.
Que, là, c'est une notion un peu compliquée à expliquer. Et il faut reconnaître que ceux qui ont vécu des conflits armés peuvent mieux comprendre ce qu'on appelle la paix. Les gens mélangent... les problèmes d'existence, pas la même chose. Hein. Donc, ils ont faim, oui. Un autre cas, ça, c'est une autre paix, ça on le sait. reconnaître quand même que l'absence de violence c'est quelque chose à apprécier. Et les Togolais l'apprécient. Revenons un peu sur ce qui se passe au Parlement. Il faut dire quelque part tout ce que nous allons demander, c'est que le député soit de la nation, qu'il puisse s'occuper de tout ce qui concerne la nation, pas trop afficher ses couleurs politiques. Merci.
Merci beaucoup, Adrien, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36
315. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, Basile.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ah, ça va.
D'accord. Allez-y.
Je salue tout le monde au plateau.
Ce
problème de paix, là, il faut qu'on soit clair. Est-ce que la paix, c'est le gouvernement qui le fait ou bien c'est l'opposition qui fait la paix? Ce que le gouvernement fait aux Togolais ici, c'est ce que d'autres opposants n'aiment pas ailleurs, et ils prennent les armes et il n'y a plus la paix. C'est plutôt l'opposition qui fait la paix. Chaque fois quand les gens viennent dire que la violence dans ce pays, qui entre l'opposition et le pouvoir, qui est prêt pour la violence? C'est ça que vous allez voir. Il ne faut pas que les gens viennent raconter la paix. C'est l'absence de quoi, c'est l'absence. Qui plutôt il faut apprécier dans ce processus-là. Et puis, les classements, c'est plutôt nos malheurs qui commencent par là. Quand on nous classe comme ça, vous ne savez pas comment c'est arrivé jusqu'à on nous a classé. Le peu peut-être que, le peu qu'on doit prendre pour s'occuper de nous, peut-être que ça, c'est passé par là. C'est de ça qu'il s'agit.
Merci. D'accord, merci beaucoup à vous, Basile. 22 21 33 114 91 36 73 75. Allô, bonjour. 22 21 33 114 91 36 73 75. Allô. 22 21 33 114 91 36 73 75. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est
C'est Paul.
Paul, vous nous appelez de quel quartier?
Je suis souvent votre émission. Hein.
Oui, Paul.
Allô?
Vous nous appelez de quel quartier?
Noukafou.
Noukafou, allez-y.
Je suis souvent votre émission.
Allez-y.
Mais il faut dire à Madame Messi qu'elle exagère. Elle a trop de bornes. Je pensais qu'elle est intelligente. Elle a beaucoup de bornes. On donne un prix au Togo, elle n'est pas d'accord.
Non,
elle
n'a qu'à aller à Paul, ça. Paul, Paul.
Elle n'a qu'à aller à
l'hôpital. Paul, Paul, allô, Paul. Paul, est-ce que Paul est avec nous? Puisque l'essentiel, c'est de se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous avons débattu alors de beaucoup de sujets. Nous voudrons vraiment avoir aussi votre appréciation alors de ces sujets, c'est ça. Allô? Allô? Oui, bonjour. Nous avons vraiment du mal à vous écouter. Aussi un peu, oui, aussi un peu la voix.
Bonjour.
Oui, votre nom c'est... Allô? Décidément, il n'est pas avec nous. Allô. Nous prenons un autre auditeur. 22 21 33 114. Allô.
Allô. Allô. Allô. Allô. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Bien.
Votre nom, c'est...
Appelez moi Saint-Jo. Je vous reprends le seul saint parmi les vivants.
Saint-Jo.
Le seul saint parmi les vivants.
Vous nous appelez de quel quartier?
Assivito.
Assivito, allez-y.
Oui, et j'entends parler sur la radio la paix. S'il vous plaît. Disons-nous la réalité. Est-ce qu'il y a la paix au Togo?
Saint-Jo,
oui.
Nous avons encore du mal à vous écouter. Je aussi un peu la voix.
La paix au Togo.
Mm-hmm.
Nous cherchons à manger depuis des décennies. Il y a une seule paix, comment appelle-t-on, un parti qui est au pouvoir depuis des années. Ils ont accaparé de toutes ces choses. Au moins, donnez-nous à manger. Donnez-nous à manger. Si nous mangeons aussi au Togo, là, c'est-à-dire. Quand nous sommes rassasiés, c'est à ce moment qu'on dit qu'on est en paix. On cherche partout à manger, on ne trouve pas. Les enfants disent qu'on les a emprisonnés. Moi je le dis, je préfère qu'on me tue plutôt. Parce qu'ils sont venus creuser derrière ma maison. Je vis dans l'eau. Hein? Mes travails, ça ne va pas. Depuis là, ils sont là-bas. Il fallait qu'ils nous donnent à manger au moins. Ils nous disent qu'il y a la paix, il y a la paix au Togo. Et puis il y a une seule personne, il y a des amis qui sont accaparés des biens du Togo, ils disent qu'il y a la paix au Togo. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il n'y a pas la paix? Donnons-nous le, juste là, et au moins la liberté au Togo. Donnons-nous la liberté dans d'autres pays là. Est-ce qu'ils ne vont pas, ils ne vont pas dans d'autres pays? Vous venez ici là, les Bénins viennent régissent ici au Togo. Allez maintenant au Bénin que voir des routes, des rues, comment on a construit des routes au Bénin. Attends pas là-bas là. Depuis là, avant, ils vivaient dans l'eau. Allez au Bénin, allez voir ton père au marché du Togo maintenant. Aucun parti du Togo, on ne peut pas comparer aucun quartier, aucune ville du Togo au Topa.
Senjo. Allô, Senjo.
Oui.
Vous étiez à Topa?
Je vis ici à Lomé.
Ah.
Mais je rentre toujours au Bénin.
D'accord.
Je vois ce qui se passe là-bas.
Ok.
Allez voir le rigol, ce que je vous construis comme rigol là. Même des voitures tombent dedans. Mais ici là, ils ont construit des rigoles, au moins, je ne sais pas, si c'est regard du WC ou bien regard de comment appelle-t-on, de douche, je ne sais pas.
D'accord. Hein? Merci beaucoup, Sergio, pour votre intervention. Et je pense que votre intervention met fin, ou du moins, nous allons recevoir notre dernier auditeur, Michel nous le permet. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Décidément, il n'est pas en ligne, il n'est pas avec nous. Et donc, nous allons mettre fin aux manifestations téléphoniques sur cette intervention lors de Saint-Jo. Et nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer l'émission. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Oui, je crois que c'est la deuxième fois dans la semaine que j'ai écouté l'exemple là de Topa, où je crois que c'était un quartier,
oui, c'est un quartier
qui est vraiment avant très inondé. Maintenant, ils ont trouvé quand même des formules. Aujourd'hui, il n'y a plus de question d'inondation. Il y a même un grand marché là. Bon, ça fait un moment que je n'ai plus visité quand même et Topa et tout.
C'est un quartier de Cotonou.
Oui, si cela peut nous inspirer, pourquoi pas? Allons voir la manière dont ils se sont pris. Pour qu'il n'y ait plus d'inondation, puisque avant c'était véritablement une zone très inondée et tout. Bon, s'ils ont réussi à trouver des formules aujourd'hui, il n'y a plus d'inondation, bon, pourquoi pas? On peut aller ici au Togo, on peut aller s'inspirer et donc venir l'implémenter ici pour que on puisse avoir moins d'inondations, donc moins de sinistrés,
d'accord,
de victimes.
Ok, Abbas?
Non, pas grand chose à commenter sur les interventions des uns et des autres. Je pense que chacun a donné son opinion. Lorsque vous donnez votre opinion, dites ce que vous avez à dire au lieu de vous attaquer à ce que nous avons dit. C'est ça l'élégance aussi démocratique et la liberté d'expression.
D'accord, merci beaucoup Abbas pour ce rappel. Fabrice?
Oui, par rapport aux inondations et autres, je crois qu'il y a aussi un élément sur lequel il faut être clair, hein. Il y a certaines zones, du point de vue géographique, ces zones-là n'échapperont jamais aux inondations. Il n'y aura jamais inondation à Kara, il n'y aura jamais inondation à Palimé, il n'y aura jamais inondation à Tapamé. C'est dû au relief. Mais Lomé, quand vous regardez un peu la côte, Lomé, et quand vous suivez les... Quelqu'un nous a parlé du Bénin. Quand vous suivez l'actualité, ce qui se passe à Abidjan, vous allez comprendre que Lomé, comme beaucoup de villes, sont dans une situation géographique, Accra également, où toutes les fois qu'il y aura pluie, des pluies diluviennes, il y aura toujours des inondations. Maintenant, là où la différence doit exister, c'est comment chacun gère ces inondations. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a débat. Sinon, c'est la nature. Soit pour empêcher, il faut prendre des dispositions pour qu'il ne pleuve plus. Mais dire que vous allez tel que Lomé est, moi j'ai tout pour ceux qui, il y a plein de gens à Lomé qui n'ont jamais dépassé Thévier. Quand vous allez dans certaines villes comme Palimé, Atapamé, il y aura jamais. Quand il pleut, l'eau coule en même temps, ça va dans la rivière et puis c'est réglé. Mais quand vous voyez la façon dont Lomé est constitué du point de vue géographique et vous voyez également la population qui ne cesse de s'accroître, c'est pour cela que vous allez retrouver certains quartiers qui n'étaient pas inondables, mais aujourd'hui qui le sont. Maintenant, ailleurs, dans d'autres pays, même à l'extérieur, vous voyez, quand ces saisons-là arrivent, on prend des dispositions. Parfois, on déplace, on demande aux gens de se déplacer. Ailleurs, c'est des incendies, quand c'est la saison sèche et autres. Donc, c'est la façon dont chacun gère ses inondations pour limiter les dégâts. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on doit faire le débat.
D'accord, merci beaucoup Fabrice. Estelle?
Oui, Fabrice a marché sur ma langue, c'est ce que je tenais à dire. Puis on était dans une optique de comparaison. Mais en matière d'inondation, je ne pense pas que comparaison soit raison. Tout dépend du relief de chaque pays. C'est par rapport à ce qu'offre le relief qu'on apporte des solutions, en fait, à ces questions d'inondation. Donc, il appartient maintenant à chaque pays de trouver des alternatives ou des solutions par rapport à ce qui se passe dans le pays et apporter, en fait, des solutions aux préoccupations des populations. Donc, en général, un peu de courtoisie. On c'est donne important. Des positions par rapport à ce qu'on en ne s'attaque pas, en fait, à ce que a dit un auditeur ou un journaliste sur ce plateau.
D'accord, merci beaucoup, Estelle. Je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de note à donner.
Et Sylvestre?
C'est une question de note, là. Il faut réfléchir. Attendez, il va réfléchir avant d'agir.
Puisque nous n'avons plus assez de temps, basse. Vous n'avez pas de note, c'est Fabrice?
Non, moi je donne 2 sur 20 aux auditeurs qui n'écoutent pas l'émission et qui attendent juste qu'on ouvre l'antenne et puis on saute dedans. Sinon, on n'a jamais dit qu'on a donné un prix au Togo. Hein.
Non, jamais.
On a dit qu'il y a un rapport qui classe le Togo.
C'est un classement.
C'est tout. Donc, il faut suivre les émissions, c'est tout. Donc,
ça... Merci beaucoup. Sylvestre, je ne sais pas si vous avez eu du temps maintenant pour réfléchir à votre note.
Non, je vais mieux réfléchir avant d'agir.
D'accord, c'est bon. C'est mieux comme ça. Sylvestre, merci à toi. Et Abbas, merci. Fabrice, merci beaucoup. Estelle, merci d'être passé alors dans cette émission. Merci pour votre contribution à ce débat. Michel Tomega a assuré la mise en onde de cette émission. Jérôme Akouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.